Wir sind hier in Annandale on Hudson.
Nous sommes ici à Annandale sur l'Hudson, au Bard College,
wo ich jetzt eben
où j'enseigne la langue et la littérature allemande.
Und wo Hannah Arendt als ein
L'esprit d'Hannah Arendt
ein
y règne.
Geist,
c'est un bon esprit. C'est l'esprit de ce lieu. Et c'est ici que j'habite.
Wo ich mich jetzt auch aufhalte. Mir ist der Name zum ersten Mal begegnet auf einem Buchcover.
Je crois que j'ai vu le nom d'Arendt pour la première fois sur la couverture d'un livre qui s'intitulait « Rapport sur l'Allemagne ». L'histoire de quelqu'un qui parcourait l'Allemagne après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a immédiatement interpellé et j'ai commencé à le lire. J'ai donc découvert Arendt assez tôt.
Hannah Arendts Werk antwortet in meinen Augen auf die Erfahrung.
Pour moi, l'œuvre d'Arendt répond à l'expérience du totalitarisme, de la tyrannie, et à la possibilité d'une domination totale du monde où la pluralité disparaîtrait, où il n'existerait plus que des êtres uniformes.
Also das heißt, sie antwortet, und davon bin
c'est cela qui me fascine chez elle.
Diese Erfahrung, mit einer Praxis des
et Arendt y répond à travers une pratique de l'écriture
also in einer Pluralität
qui n'utilise pas une langue, mais une pluralité des langues.
Merkmal von Hannah Arendts Werk, wenn man so will,
c'est une caractéristique de son œuvre. Presque tous ses textes sont écrits en deux langues.
Hat.
En anglais et en allemand.
Deutsch und auf Englisch. Das zieht sich durch ihr
on retrouve ce bilinguisme dans toute son œuvre. C'est une critique tout à fait délibérée de l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule langue de la vérité.
Der Wahrheit. Es geht eigentlich darum, dass man die vielfältige Möglichkeit,
il y a toujours une pluralité de sens qui renvoie à la pluralité des hommes.
Zur Sprache bringt. Und das ist immer eine Pluralität, weil diese Pluralität auf der
on ne peut pas séparer la pluralité des hommes, la pluralité politique, de la pluralité des langues.
Die politische Pluralität nicht trennen von der Pluralität der Sprachen.
Il est devenu évident qu'elle aurait du mal à remporter cette élection contre Michael Heseltine.
Kenneth Clark.
Je me suis aperçu que mes collègues plus jeunes et ceux qui occupaient des sièges marginaux n'avaient pas du tout l'intention de voter pour elle. Michael était un candidat séduisant et elle s'était mis beaucoup trop de gens à dos. J'ai voté pour elle parce que je faisais partie de son cabinet. Quand on est membre du cabinet, on ne vote pas contre le Premier ministre. Elle commençait à me fatiguer, mais j'ai voté pour elle. Je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait à ça. Une fois à la Chambre des communes, elle a compris que ça allait être serré. Et puis le résultat est tombé. Elle avait une majorité de voix, mais pas assez pour gagner. 40% des membres du parti avaient voté pour qu'elle s'en aille. Quand vous dirigez un parti depuis plus de 10 ans et qu'il s'avère que 40% dans vos propres rangs souhaitent votre départ, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Mais elle a décidé de continuer. Tactiquement, ça paraissait comme un bon moyen de rattraper certaines choses. J'ai suivi de très près les tractations frénétiques des deux derniers jours, avant qu'on parvienne à la persuader de se retirer. Jusque-là, je m'étais tenu à l'écart de sa campagne, même si je comptais voter pour elle. Mais au lendemain du premier tour, j'ai reçu un coup de fil de John Wakeham. Il voulait savoir si je serais d'accord pour diriger la campagne du second tour. Je n'avais jamais rien entendu de plus absurde de toute ma vie. John est un vieil ami, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, et j'ai répondu, dis-lui qu'il n'y aura pas de seconde campagne. Je ne dirigerai aucune campagne pour elle, et personne d'autre ne devrait le faire. Il faut la convaincre de se retirer avec
élégance.
Je ne pense pas être le seul à avoir tenu ce genre de propos à John Wakeham.
Et
ça a été ma première intervention.
Thames and Hudson commissioned
me.
Thames and Hudson m'a commandé les vies de Lee Miller. Ils avaient entendu parler de ce qui se passait, ils sont venus me voir, et ils m'ont dit, on veut un livre sur Lee, qui pourrait l'écrire? Après en avoir longuement discuté, j'ai fini par leur proposer de le faire moi-même. À ce moment-là, je voulais aller plus loin, je voulais aller au fond des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris environ 3 ou 4 ans. Dans le cadre de mes recherches pour le livre sur Lee, j'ai passé presque 2 mois aux États-Unis à retrouver des gens, aller les voir et les interviewer. J'accumulais des pages et des pages de notes. Et puis je suis arrivé chez mon oncle à Los Angeles. C'était un photographe, un type merveilleux. Et je lui ai dit, j'ai plein d'informations, je sais qu'elle a fait ceci et cela, mais il y a quelque chose chez elle que je ne comprends pas. Il me manque une pièce du puzzle. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est jamais pleinement épanouie dans une relation stable. Je ne comprends pas pourquoi elle a eu une vie sexuelle si débridée dans sa jeunesse. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a jamais pu avoir vraiment confiance en personne. Malgré sa générosité et sa gentillesse, il y avait toujours un problème de confiance. Il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Il me manque un élément. Il est devenu très silencieux. Il a quitté la pièce. 5 minutes plus tard, il est revenu en disant, « Je viens de parler à ta tante. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il m'a raconté que sa mère avait fait une dépression nerveuse et souffert brièvement de troubles mentaux et que Lee, alors âgée de 7 ans, avait été envoyée à Long Island chez des amis de la famille. Pendant qu'elle était chez ces gens, il y avait également dans la maison leur fils ou un autre jeune cousin qui était marin. Il travaillait sur un bateau transatlantique. Il avait violé Lee, et ce faisant, lui avait transmis une blénorragie. Ça avait été un événement terrible, et la famille avait aussitôt resserré les rangs. Elle s'était refermée sur elle-même. Il y avait toutes sortes de raisons à cela, mais la principale était qu'à l'époque, la victime d'un viol était aussi coupable. On estimait que la fille avait fait quelque chose pour le mériter. À 7 ans, n'importe quoi. Mais ils savaient que si cette histoire circulait, elle ne pourrait jamais se marier et ne ferait sans doute jamais carrière. On la regarderait comme une moins que rien. Alors ils se sont refermés et ils n'ont rien dit. Lee n'en a jamais parlé à personne.
Tinker apparaît enfin. 82 ans, un corps noué et tonique dans une combinaison de mécanos, les mains noires d'un dernier bricolage. Et pas le genre à faire du sentiment quand on lui demande quel genre de conversation il a bien pu avoir avec Bruce Springsteen en traversant les États-Unis d'est en ouest.
On causait pas mal ensemble. N'oubliez pas qu'on traversait le pays et qu'il ne savait pas conduire. Quand il conduisait, j'étais mort de trouille. J'ai conduit non-stop depuis ici jusqu'au Texas, et ça fait une sacrée trotte. Et ce camion n'allait pas bien vite, maximum 90, à cause de la transmission. Bruce a toujours été quelqu'un avec qui on pouvait raconter des conneries. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était sa musique. Il ne pensait qu'à ça, et du coup, il en parlait tout le temps, ce qu'il allait faire, etc., etc.
Seulement sa musique ?
Oui, quasiment. Et aussi un peu les femmes. Parce qu'il n'avait pas son permis, et du coup, il avait plein de filles pour le conduire partout. Mais ça, c'est sa vie privée, et je n'aime pas parler de la vie privée des gens. C'est Vinny que j'ai rencontré en premier quand j'avais ce business de planches de surf. J'avais environ 30 employés et un très grand magasin, environ 1800 m2, dont 600 que je n'utilisais pas. Je lui ai dit, si tu montes un groupe, il faut que ce soit avec un répertoire original. Parce que quand je suis arrivé de Californie, personne ici ne composait. Il n'y avait que des petits groupes minables qui jouaient dans les bars les succès du top 40. Aucune originalité. Alors qu'en Californie, tout le monde écrivait sa propre musique. À San Francisco, il y avait les Grateful Dead, Janis Joplin. Ils composaient tous leurs propres chansons. Et je me suis donc retrouvé dans le New Jersey avec ce commerce de planches de surf. Dans le business du surf, on a été la plus grande entreprise de planches de toute la côte Est pendant plusieurs années. Mais que ce soit ici ou là-bas, j'avais plein de temps et plein de place, et écouter de la musique originale me manquait beaucoup. Alors j'ai dit à Vinny, monte un groupe, composez, et moi je vous fournis les locaux pour répéter. C'était sur Sunset Avenue tout en haut, près du réservoir Blue Water. C'est là que se trouvait mon premier magasin. Vous êtes allé là-haut pour toucher ? Non, parce qu'il y a plein de gens bizarres qui viennent là. Je peux toucher ? Mais vous êtes dingue ou quoi ? Tout ça date quand même de 20 ou 30 ans, alors on se calme. Bref, le groupe s'est monté et après ils sont passés à l'upstage. Et c'est là que j'ai vu jouer Bruce pour la première fois avec lui. Et je lui ai dit, il est très bon. Vinny lui a dit qu'ils avaient un endroit où répéter gratuitement. Et moi j'ai dit, écrivez des chansons. Moi j'avais mon business qui a fourni l'argent pour construire la sono et tout le bordel. Il écrivait déjà avant que je le rencontre. Il était tout le temps en train d'écrire. Et encore maintenant, Bruce écrit en permanence, il écrit. Et donc, il a écrit toutes ses chansons et ils se sont mis à répéter. Un pote à moi, Dean Ward, qui est un glaceur, un copain de surf et qui vit au Costa Rica, m'a dit que ça a été le meilleur moment de sa vie. Je passais mes journées à glacer et à écouter la meilleure musique du coin en assistant aux répétitions. C'était génial. Bref, c'est comme ça que tout a commencé. Il y avait un nightclub en bas de la colline qui s'appelait le Pandemonium. Et il allait là-bas quand les chansons étaient presque prêtes pour les chanter. Parce que Ike et sa petite amie Ripley nous connaissaient, qu'ils aimaient bien le groupe et tout, et qu'ils avaient décidé de nous laisser tester les chansons dans leur boîte. Ça a donc commencé comme ça. Et on a fait quelques trucs. J'empruntais du matériel pour qu'ils puissent jouer dans des parcs, parce qu'on ne les engageait pas encore dans des salles. J'étais allé voir plein d'agents du coin, mais ils me demandaient chaque fois, est-ce qu'ils jouent tel et tel succès ? Je répondais que non, qu'ils jouaient leurs propres compositions. Alors ils me disaient tous, on ne peut pas vous engager, personne ne va payer pour ça. Ils le pensaient vraiment, ils n'avaient aucune imagination. Alors on a donné un petit concert au West End Park. J'avais emprunté quelques enceintes, comme celles qui sont dans l'arrière-boutique, des haut-parleurs de cinéma. On avait monté tout un système qui marchait très bien.
Vous étiez à la fois le manager du groupe,
le manager, l'ingénieur du son, le technicien, le constructeur. Il y a une remorque là-bas qui est pleine de matériel de sonorisation, celle qui est dehors, la grande. Il y a dedans toute une série d'enceintes. Regardez celles-là, les deux grandes qui sont en bas. Il y en a 6 ou 8 comme ça. Il y a aussi plein d'autres trucs. Je construisais tout. Jusqu'à 14 ans, je ne savais même pas qu'il existait des concerts auxquels on pouvait assister, qu'il existait une vie musicale, une communauté musicale, des amateurs de musique qui prenaient ça très au sérieux. On ne parlait jamais de musique dans ma famille.
Under the musical direction of Leonard Bernstein.
And here is Mr. Bernstein.
Now what about us here in America?
Et pour nous, ici en Amérique, c'est quoi notre musique traditionnelle? Qu'est-ce que nos grands-parents chantaient? Ça, c'est le problème. Parce que nous avons des grands-parents de partout. Et vous, vos grands-parents? Et les vôtres? Ils sont quoi, les vôtres? Vous pouvez me dire?
What about yours? Hungarian, somebody just said. What were yours?
Les vôtres? Hongrois?
Polish.
Polonais?
What were yours?
Qu'est-ce qu'on est?
And you said so, and they said no, you can't have it.
Vous dites que vous le voulez, et on vous répond non, tu ne peux pas l'avoir. Et vous répétez je le veux, et on vous répond à nouveau non. Et vous répétez plus fort en vous énervant, je le veux, je le veux, je le veux, jusqu'à ce que quelque chose semble se briser dans votre tête, et qu'il ne vous reste plus qu'à pleurer. Eh bien, c'est comme cette musique. Écoutez. Et finalement, quelque chose se brise dans votre tête. Et vous pleurez.